Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi, on vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Bonsoir et bienvenue sur Syllabe. Vous écoutez, j'irai cracher sur vos ondes. En parlant de crachat, on n'est pas là pour vous cracher à la gueule notre mépris du haut d'un piédestal bâti sur les livres des plus grands. Non, rien de cela. Nous, on est là pour parler des faits et des objets de la littérature, quels qu'ils soient. On tâche de parler des œuvres de pas si petites, des pas assez connues, des plumes qui détonnent et des voix qui chamboulent. On dépoussière les classiques et on guette des nouveautés électriques. BD acidulées, pièces enjouées, science-fiction détonnante, séries Netflix dévorantes, romans de boulevard et déclamations qui déboulent sans crier gare, rien ne nous arrête. Moi, c'est Cécile, et aujourd'hui, je vous anime et réalise une émission carte blanche. Pas de thématique définie ou de fil conducteur, pas d'entretien, mais trois chroniques, écrites par Sandrine, Clara et Ingrid. Chacune aura eu la liberté totale de son sujet. Mais avant de te laisser, toi, auditrice, auditeur, le plaisir de les découvrir, je me permets de te proposer un appel. Une bouteille lancée à la mer, à laquelle je t'invite à donner réponse. Chère auditrice, cher auditeur, que lis-tu ? Comment lis-tu ? Quelle est ta littérature préférée ? Comment te procures-tu tes livres ? Est-ce qu'un livre a déjà changé ta vie ? T'est-il arrivé d'arrêter de lire ? Tu pourrais croire là qu'il ne s'agit que de questions rhétoriques, à laquelle tu ne peux répondre que par le biais de ta voix intérieure, en gardant ces réponses connues de toi seule. Mais cette fois-ci, auditrice, auditeur, les choses sont différentes. Car vois-tu, ces questions, Ingrid te propose d'y répondre au fil d'une discussion où vous accompagnera son micro. Si tu es intéressé pour participer à cet appel à témoignage, n'hésite plus, et envoie un mail à ingrid.radiosyllabe@gmail.com. Ah, t'as peut-être pas eu le temps de tout noter. Vas-y, sors ton téléphone, ou attrape un crayon si tu préfères, voilà. C'est bon, tu es prêt ? Je répète, ingrid.radiosyllabe@gmail.com. Super. Je compte sur toi, hein ? Tu partageras la foi de ton entourage aussi ? Yes, cool. Bon, bah, je pense qu'on peut reprendre le cours de notre émission dans ce cas. Voici la chronique de Sandrine. Prépare-toi à faire la rencontre d'un livre intense. Intense comme le jaune d'un œuf au plat qui luit de mille feux dans le secret de ta poêle au petit matin. Et tu sais bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors prépare-toi à retrouver des sons de coquilles brisées, à en faire trembler les murs de la cuisine, des crépitements ardents à en bouleverser la cuisinière. Allez, trêve de métaphores filées voire décousues, et écoutons plutôt Sandrine.
Bonjour à toutes et à tous. Nous ne sommes pas en studio, et chaque chroniqueuse rédige sa chronique chez elle, dans une chambre à soi, sa chambre à soi, comme le dirait Virginia Woolf. Carte blanche est la thématique de notre émission. Eh bien, je vais vous parler d'un livre dont la couverture jaune, très jaune, m'a attirée alors que je me promenais en librairie. Ouais, j'aime les librairies. Toutes les librairies et toutes les couleurs aussi. Toutes les nuances des couleurs. Alors, autant vous dire que j'ai été plus que comblée lorsque j'ai vu que ce livre était aussi vendu avec le premier tome, lui, en bleu, un bleu ravissant. Son titre est « Ce que je ne veux pas savoir ». Bon, bien sûr, j'aurais pu vous parler du petit livre des couleurs de Michel Pastoureau et Dominique Simonet, mais ce sera peut-être pour une autre chronique. Et là, j'ai terriblement envie de vous parler de ce livre jaune. Allez, je vous donne le titre, c'est « Le coup de la vie ». Le coup de la vie de Déborah Lévy. Parce que, en fait, il m'a profondément marqué et terriblement touché, ému. Ouais, ça faisait vraiment longtemps qu'une lecture ne m'avait pas autant bouleversée. Et j'avoue qu'en fait, en parlant encore avec vous, la puissance d'écriture revient et me touche, me bouleverse, me transporte. Et j'espère que ce sera le cas pour vous. Peut-être que vous avez déjà la chance de l'avoir lu. Sinon, je vous propose d'aller vraiment en librairie à la nuit des temps, par exemple, ou en bibliothèque pour le trouver. Alors, il est très très chouette ce livre. La première de couverture, vous trouvez une photographie en noir et blanc. Et c'est issu d'un film de Jean-Luc Godard. Elle est très très belle, très attirante. Bon, autant vous dire que j'ai commencé cette lecture sans suivre la norme, à savoir lire le premier puis le second. Non. J'ai directement commencé par le deuxième. Le premier a été l'occasion de passer ma soirée ailleurs que sur Netflix, il y a quelques semaines, et j'ai bien réussi, j'avoue. Bon, je pense le relire, avant de le faire, sans doute avant la réouverture des bars, des musées, des théâtres. à partir du 19 mai. Je crois bien que je vais vivre dans les lieux culturels et toutes les terrasses ensoleillées rennaises de manière très appliquée. Et je vois mon agenda se remplir. Bon allez, trêve de plaisanterie pour commencer. Je vous lis la quatrième de couverture. Un divorce forcément douloureux, une grande maison victorienne troquée contre un appartement en haut d'une colline dans le nord de Londres, deux filles à élever et des factures qui s'accumulent. Déborah Levy a 50 ans quand elle décide de tout reconstruire avec pour tout bagage un vélo électrique et une plume d'écrivain. L'occasion pour elle de revenir sur le drame pourtant banal d'une femme qui s'est jetée à corps perdu dans la quête du foyer parfait, un univers qui s'est révélé répondre aux besoins de tous, sauf d'elle-même. Cette histoire ne lui appartient pas à elle seule, c'est l'histoire de chaque femme confrontée à l'impasse d'une existence gouvernée par les normes et la violence sournoise de la société, en somme de toute femme en quête d'une vie à soi. Ce livre, éblouissant d'intelligence et de clarté, d'esprit et d'humour, pas tant récit que manifeste, ouvre un espace où le passé et le présent coexistent et résonnent dans le fracas incessant d'une destinée. Le coup de la vie tente de répondre à cette question. Que cela signifie-t-il pour une femme de vivre avec des valeurs, avec sens, avec liberté, avec plaisir, avec désir? La liberté n'est jamais gratuite et quiconque a dû se battre pour être libre en connaît le coût. Marguerite Duras nous dit qu'une écrivaine doit être plus forte que ce qu'elle écrit. Déborah Levy offre en partage cette expérience. Alors, qui est cette autrice? Je vous lis sa biographie prise sur le site Babelio. Alors, elle est née à Johannesburg en 1959. C'est une romancière, dramaturge et poétesse britannique. Elle s'est d'abord concentrée sur l'écriture pour le théâtre. Ses pièces ont été mises en scène par la Royal Shakespeare Company avant de se concentrer sur la fiction en prose. Ses premiers romans comprennent Beautiful Mutants, Swallowing Geography et Billion Girl. Ce roman Swimming Home a été dans la shortlist du prix Booker en 2012 et The Man Who Saw Everything fut dans la première sélection du prix Booker en 2019. Voilà de manière très concise les éléments clés de sa vie. À ce qui m'a touchée, c'est la détermination, sa soif de liberté, son désir d'autonomie, son urgence d'émancipation. Je crois que ce qui m'a fait réfléchir, c'est lorsqu'elle écrit qu'elle ne veut plus être un personnage secondaire. Elle veut devenir le personnage principal. Et ça, c'est clairement hyper puissant. Elle se détache de toute superficialité et entreprend un dépouillement de tout ce qui ne lui apporte plus de la joie ou des émotions positives. Allez, je vous lis un premier extrait en début de roman. Arracher le papier peint de ce conte de fées qu'est la maison familiale où le confort et le bonheur des hommes et des enfants ont été prioritaires. C'est trouver en dessous une femme épuisée, qui ne reçoit ni remerciements ni amour et qu'on néglige. Il faut de l'habileté, du temps, de la dévotion et de l'empathie pour fondre un foyer qui fonctionne et dans lequel tout le monde se sent bien. C'est surtout un acte d'une générosité immense que d'être l'architecte du bien-être de tous les autres. Beaucoup de gens pensent encore que cette tâche revient aux femmes. Par conséquent, on utilise toutes sortes de mots pour minimiser cet effort monumental. Si l'épouse et mère a été fécondée par la société, elle joue le rôle de l'épouse et de la mère pour tout le monde. Elle a construit le récit que l'antique patriarcat a tressé pour la famille nucléaire hétérosexuelle et y a bien sûr ajouté quelques ornements contemporains qui lui sont propres. Ne pas se sentir chez elle dans sa propre maison est le début du plus grand récit créé par la société et du malaise féminin. Si elle n'est pas trop abattue par le récit sociétal qu'elle incarne avec espoir, fierté, bonheur, ambivalence et rage, elle changera le récit. Alors ce roman, eh bien, il donne de la force et il fait du bien parce qu'il parle, il décrit ses moments douloureux et aussi ses libérateurs. Lorsqu'elle se retrouve seule avec ses filles. Écoutons un deuxième extrait. J'avais les idées claires, j'étais lucide. L'installation en haut de la colline et la nouvelle situation avaient libéré quelque chose jusque-là, enfermé et étouffé.
J'ai gagné en vigueur à 50 ans, à un âge où mes os étaient censés se fragiliser. J'avais de l'énergie parce que je n'avais pas d'autre choix que d'en avoir. Je devais écrire pour subvenir aux besoins de mes enfants et je devais gérer moi-même toutes les difficultés. La liberté n'est jamais libre. Quiconque s'est battu pour être libre sait ce qu'il en coûte. Ouais, dans ce livre, déconstruire les schémas de la norme de la société patriarcale et le combat de la narratrice. Allez, je termine mes lectures avec un autre passage. Quand une femme doit trouver une nouvelle façon de vivre et s'émancipe du récit sociétal qui a effacé son nom, on s'attend à ce qu'elle se déteste par-dessus tout, que la souffrance la rende folle, qu'elle pleure de remords. Ce sont les bijoux qui lui sont réservés sur la couronne du patriarcat qui ne demandent qu'à être portés. Cela provoque beaucoup de larmes, mais mieux vaut marcher dans l'obscurité noire et bleutée que choisir ces bijoux de pacotille. Ce livre est un chef-d'œuvre, et vraiment, je vous encourage à le lire. C'est un chef-d'œuvre dans lequel elle parle non seulement d'elle, mais de vous, de moi, de nous. C'est très délicat et poétique, c'est fort et profond, et je me pose souvent la question à quel point l'utilisation du pronom personnel « je » détermine un chemin de réappropriation et d'approfondissement de soi. Bien sûr, j'aime aussi lorsqu'elle nous parle et cite Marguerite Duras et Emily Dickinson. Allez, je vous dévoile un scoop. Le troisième tome de cette trilogie autobiographique s'appelle « La propriété privée » et j'ai vraiment hâte de le lire. À bientôt, je vous embrasse. Je vous laisse avec Rachel Yaron.
בבית אולי בשנה הבאה אהיה במקום יותר טוב אין לי אוויר אני נושמת בקושי אתה קורא לי לחזור ואני לא יכולה לא נמצא פה אתה לא יודע אני מחכה שתחבק אותי פעם ביום פעם ביום חיפשתי אותך באנשים אחרים תרקו לי דלתות לא מצאתי מילים גם לי יש פחדים אני נרדמת בקושי אתה קורא לי לחזור שוב לשמוע אותך ואתה לא נמצא פה אתה לא יודע שתחבק אותי פעם ביום פעם ביום פעם ביום שתחבק אותי Thank you. הרבה קוטי וארגיש בבית שתחבק אותי ויהיה במקום יותר טוב שתחבק אותי.
Vous venez d'écouter Rachel Yaron interpréter Une fois par jour. Vous êtes sur Syllab et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes. Et notre programme de ce soir, c'est Carte blanche. Autrement dit, chaque chroniqueuse était libre de chroniquer ce qu'elle voulait, comme elle l'entendait. Et comment pourrais-je vous introduire à la chronique qui arrive ? Eh bien, je peux vous dire qu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. Enfin non, plutôt d'une nouvelle, tout court. Je peux également vous indiquer qu'il y aura matière à penser, cogiter, à remuer. En tout cas, pour bien écouter, il faudra voir au-delà. Vous êtes prêts pour cela ? Alors je vous laisse en la compagnie d'Ingrid.
Ce soir, moi, je vais vous parler de Christian Bobin. J'ai recroisé sa route il y a quelques semaines, un lundi matin après l'enregistrement de cette émission, en allant faire un petit tour au marché des bouquinistes, place Hoche, à l'époque où il faisait encore beau et où je croyais encore au printemps. Alors pour résumer un peu et pour des gens qui ne connaîtraient pas Christian Bobin, je dirais que c'est des phrases assez simples et fluides, où tout est dit de manière très douce et poétique, avec des formules qu'on a envie de souligner à chaque page. Je dirais aussi qu'il y a quelque chose d'épuré dans l'écriture, mais aussi dans la pensée, ce qui rend l'expérience assez apaisante, pour ma part en tout cas, avec une attention très soignée et importante aux choses. C'est très contemplatif, presque religieux. Et personnellement, je crois que Bobin me donne de l'espoir, parce qu'il me fait dire que les hommes cis peuvent être aussi sensibles, et c'est un peu rassurant. Et oui, encore des poncifs féministes, je peux pas m'en empêcher. Le recueil de nouvelles sur lequel je suis tombée il y a quelques semaines, donc, c'est L'Inespéré. Écrite à la première personne, on y sent le point de vue et les émotions de l'auteur. Il y a par exemple le thé santé, sur la mort d'une vieille dame de sa famille et la réaction des enfants, qui va être de passer plusieurs jours à la décorer de fleurs, à la regarder et à l'entourer d'une présence joyeuse. Ou encore, une fête sur les hauteurs, où Bobin doit faire un séminaire devant une foule d'adultes sages et attentives, et où il repense à un moment où des enfants l'ont invité à prendre le thé, invisible, dans des tasses invisibles, dans une cabane de jardin, et où ce moment-là lui paraît beaucoup plus sensé que ce qu'il est en train de faire. Alors dans l'idéal, peut-être que j'aurais pu vous présenter Christian Bobin et son œuvre, la disséquer, donner mon avis, vous convertir au charme que j'ai éprouvé à la lecture de ses textes. Oui, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu faire. Mais en vrai, comme ce soir c'est une carte blanche, et que peut-être je n'ai pas assez travaillé à écrire cette chronique, je vais pas faire ça. Ce qui me paraît le mieux à faire là, c'est juste de vous lire une de ses nouvelles, que j'ai beaucoup aimée. Elle s'appelle Le Mal, elle parle de la télévision, mais elle peut s'étendre aux autres médias, aux réseaux sociaux, à notre rapport à l'information et à notre consommation d'images en général. Elle a résonné pour moi avec ce qui se passe en Palestine actuellement. Les mots de Christian Bobin sont toujours doux et justes, mais en plus là, je les ai trouvés assez politiques. Le Mal. Elle est sale. Même propre, elle est sale. Elle est couverte d'or et d'excréments, d'enfants et de casseroles. Elle règne partout. Elle est comme une reine grasse et sale qui n'aurait plus rien à gouverner, ayant tout envahi, ayant tout contaminé de sa saleté foncière. Personne ne lui résiste. Elle règne en vertu d'une attirance éternelle vers le bas, vers le noir du temps. Elle est dans les prisons comme un calmant. Elle est en permanence dans certains pavillons d'hôpitaux psychiatriques. C'est dans ces endroits qu'elle est le mieux à sa place. On ne la regarde pas, on ne l'écoute pas, on la laisse radoter dans son coin, on met devant elle ceux dont on ne sait plus quoi faire. Les jours dans les hôpitaux comme dans les prisons sont plus longs que des jours. Il faut bien les passer. On lui fait garder les invalides mentaux, les prisonniers et les vieillards dans les maisons de retraite. Elle a infiniment moins de dignité que ces gens-là, assommés par l'âge, blessés par la loi ou par la nature. Elle se moque parfaitement de cette dignité qui lui manque. Elle se contente de faire son travail. Son travail, c'est salir la douleur qui lui est confiée et tout agglomérer, l'enfance et le malheur, la beauté et le rire, l'intelligence et l'argent, dans un seul bloc vitré et gluant. On appelle ça une fenêtre sur le monde. Mais c'est plus qu'une fenêtre, le monde dans son bloc, le monde dans sa lumière pouilleuse de monde, les détritus du monde versés à chaque seconde sur la moquette du salon. Bien sûr, on peut fouiller, on trouve parfois, surtout dans les petites heures de la nuit, des paroles neuves, des visages frais. Dans les décharges, on met la main sur des trésors. Mais cela ne sert à rien de trier. Les poubelles arrivent trop vite. Ceux qui les manient sont trop rapides. Ils font pitié, ces gens. Les journalistes de télévision font pitié avec leur manque parfait d'intelligence et de cœur. Cette maladie du temps qu'ils ont, héritée du monde des affaires. Parlez-moi de Dieu et de votre mère. Vous avez 1 minute et 27 secondes pour répondre à ma question. Un ami à vous, un philosophe, passe un jour là-dedans, dans la vitrine souillée d'images. On lui demande de venir pour parler de l'amour, et parce qu'on a peur d'une parole qui pourrait prendre son temps, peur qu'il n'arrive quelque chose, parce qu'il faut à tout prix qu'il ne se passe rien que de confus et de désespérant, c'est-à-dire moins que rien. En raison de cette peur, on invite également 20 personnes, spécialistes de ceci, expertes en cela, 20 personnes, soit 3 minutes la personne. La vulgarité, on dit aux enfants qu'elle est dans les mots. La vraie vulgarité de ce monde est dans le temps, dans l'incapacité de dépenser le temps autrement que comme des sous. Vite, 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 aller d'une catastrophe au chiffre du tiercé, vite glisser des tonnes d'argent et d'inintelligence profonde de la vie, de ce qu'est la vie dans sa magie souffrante. Vite aller à l'heure suivante et que surtout rien n'arrive, aucune parole juste, aucun étonnement pur. Et votre ami, après l'émission, il s'inquiète un peu quand même. Pourquoi cette haine de la pensée, cette manie de tout hacher menu ? Et la réalisatrice lui fait cette réponse magnifique. Je suis d'accord avec vous, mais il vaut mieux que je sois là. Si d'autres étaient à ma place, ce serait pire. Cette parole vous fait penser aux dignitaires de l'État français durant la Seconde Guerre mondiale, à cette légitimité que se donnaient les vertueux fonctionnaires du mal. Il fallait bien prendre en charge la déportation des Juifs de France. Cela nous a permis d'en sauver quelques-uns. Même abjection, même collaboration aux forces du monde qui ruinent le monde. Même défaut absolu de bon sens. Il y a des places qu'il faut laisser désertes. Il y a des actes qu'on ne peut faire sans aussitôt être défait par eux. La télévision, contrairement à ce qu'elle dit d'elle-même, ne donne aucune nouvelle du monde. La télévision, c'est le monde qui s'effondre sur le monde. Une brute géniarde et avinée, incapable de donner une seule nouvelle claire, compréhensible. La télévision, c'est le monde à temps plein, à rabord de souffrance, impossible à voir dans ces conditions, impossible à entendre. Tu es là dans ton fauteuil ou devant ton assiette, et on te balance un cadavre suivi d'un but de footballeur. Et on vous abandonne tous les trois, la nudité du mort, le rire du joueur et ta vie à toi, déjà si obscure. On vous laisse chacun à un bout du monde, séparés d'avoir été aussi brutalement mis en rapport. Un mort qui n'en finit plus de mourir, un joueur qui n'en finit plus de lever les bras, et toi qui n'en finis pas de chercher le sens de tout ça. On est déjà à autre chose. Dépression sur la Bretagne, accalmie sur la Corse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de la vieille gorgée d'images, torchée de sous ? Rien. Il ne faut rien faire. Elle est là, de plus en plus folle, malade à l'idée qu'un jour elle pourrait ne plus séduire. Elle est là et elle n'en bougera plus. Un monde sans images est désormais impensable. Il y aura toujours des jeunes gens dynamiques pour la servir, pour faire la sale besogne à ta place. À la place de tous les autres, au nom de tous les autres. Il faut laisser le bas aller jusqu'au bas. Laisser la décomposition organique du monde se poursuivre. C'est vers la fin déjà. Ça va vers sa fin, il ne faut rien toucher à l'agonie en cours. Ne surtout pas réparer ce qui se détraque. Autant mettre du fond de teint sur les joues cireuses d'une morte. Laisser proliférer les images aveugles. Quelque chose vient par en dessous, quelque chose vient à notre rencontre. Il y a dans la douleur une pureté infatigable, la même que dans la joie. Et cette pureté est en route dessous les tonnes d'imaginaires congelés. En attendant, les images vraies, les images pures de vérité, trouvent asile dans l'écriture, dans la compassion de solitude, de celui qui écrit. Velibor Solik, par exemple, un écrivain yougoslave. Il ne fait pas de belles images, il dit ce qu'il voit. C'est aussi simple que ça. Il dit une chose qui se passe à Modrica, en Bosnie-Herzégovine, le 17 mai 1992. Il l'a dit comme une chose éternelle. Il voit dans la singularité d'un lieu et d'un acte l'éternel du monde depuis ses débuts de monde. Ainsi, tu peux lire sans que le courage s'en aille, sans que tu te dises à quoi bon. Ainsi, tu donnes à la phrase le temps de s'écrire, à la douleur du monde le temps d'entrer dans ton esprit pour y délivrer son sens. Tu lis. Le tzigane Ibro gagnait sa vie en revendant des vieux papiers et des bouteilles vides. Il possédait une charrette déglinguée et plusieurs générations d'habitants de Modrica l'avaient entendu dans le petit matin pousser son célèbre « Transport en tout genre, on charge les morts comme les vivants !» Il habitait une étrange chaumière dans une rue à proximité de la maison médicale. Il avait une femme, sourde muette, et un fils d'une quinzaine d'années, débile mental. Le 17 mai, quand l'armée serbe entra définitivement dans Modrica, le tzigane Ibro refusa de fuir, bien qu'il fût musulman. On n'eut pas de pitié pour lui. Les soldats serbes lui coupèrent le cou, ainsi qu'à sa femme et son fils, et comme au temps des Turcs, plantèrent leurs têtes sur des piquets de la palissade qui entourait la maison. D'après ce que nous ont raconté les témoins, il y avait sur la table, dans la cour, une bouteille de raki et du café tout frais, pour accueillir les militaires au cas où ils viendraient. Tu lis ça, et tu le vois. Lui, sa femme, son fils, la gaieté juvénile des meurtriers, les têtes sur les piquets et le café frais. La télévision, elle, t'aurait peut-être montré le café, mais elle aurait insisté sur les têtes, avec un marmonnement du genre « Nous avons hésité à vous le montrer. » Et en avant la suite, on n'a pas que ça à faire, dépression sur la Corse, accalmie en Bretagne. Et tu serais resté dans ta salle à manger, stupide, trois têtes sur la table. Là, tu as tout, et la pureté tragique du tout. L'hospitalité accordée aux assassins. Le mal de la télévision, ce n'est pas dans la télévision qu'il est, c'est dans le monde. Et si on les confond, c'est qu'ils ne font plus qu'une masse perdue, souffrante. Le mal du monde est là depuis toujours, dans le refus de l'hospitalité, premier feu sacré de l'histoire humaine, avant même le surgissement de Dieu. C'est le mal du monde et c'est celui dont souffre la folle repue d'image. Ne rien accueillir des images faibles de la douleur, méconnaître les lois élémentaires de l'hospitalité qui veulent que l'on donne de l'eau à ce qui vient de loin. Je distrais, dit la télévision, et elle ne fait plus rire depuis longtemps. On ne peut pas faire de la culture pour tout le monde, dit la télévision, et on n'ose pas lui répondre que ce n'est pas un problème de culture, mais d'intelligence, ce qui n'est pas du tout du même ordre. L'intelligence n'est pas affaire de diplôme. Elle peut aller avec, mais ce n'est pas son élément premier. L'intelligence est la force, solitaire, d'extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante pour éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre là-bas, comme nous égarés dans le noir. Je donne dans le sentiment, dit la télévision, et on n'a pas le courage de lui montrer l'abîme qu'il y a entre le sentiment et la sensiblerie. Ce n'est pas moi, dit la télévision à bout de course, c'est le peuple, je fais ce que veut le peuple. Et il n'y a plus qu'à se taire devant l'analphabétisme grave de la télévision et de ceux qui la font. Le mot de peuple est un des plus beaux mots de la langue française. Il dit le manque et l'entêtement, la noblesse des gueux sous l'incurie des nobles. Il dit le contraire exact de ce que dit la télévision. Et pour l'instant, on en est là. La douleur arrive affamée dans les bras de la télévision qui la fourre aussitôt dans tous les bras sans l'avoir nourrie, écoutée, vue. Elle cherche un droit d'asile dans l'encre avant de le trouver un jour dans l'église des images. Car c'est sûr et certain, il y aura un jour un homme assez intelligent pour savoir filmer une bouteille de raki et du café tout frais. Et cet homme prendra son temps, dira ce qu'il croit juste ou se taira. Parce qu'il est parfois nécessaire de se taire pour délivrer une parole juste et montrer, longtemps montrer, simplement montrer, calmement montrer une bouteille de raki et du café tout frais.
Just a story about the disease of the century. You are addict, television addict. You are addict, television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict. You are addict, television addict. Where is your creation, Mr. Television? Where is your creation, Mr. Television? The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. You are addict, television addict. Yes, addict, television addict. A story about the disease of the century. You are addict, television addict. You are addict, television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television.
You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict. You are addict, television addict. Where is your creation, Mr. Television? Where is your creation, Mr. Television? The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. You are addict, television addict. Yes, addict, television addict.
C'était TV Addict par Poupa Jim. Suite à cette pause musicale, nous poursuivons notre émission de Jury Craché sur vos ondes avec la carte blanche de Clara. Cette carte a pris les couleurs d'un auteur trop souvent perçu à travers le prisme noir et blanc sur motif quadrillé, parsemé de pions et de chevaux. Mais Clara n'a pas choisi cette facette-là. Non, non. Elle vous emmène découvrir un autre récit de ce célèbre écrivain que je vous tiens encore un petit peu secret. C'est un texte qui vous emmènera outre-Rhin en jeunesse. Et en terre sentimentale.
Bonsoir à toutes et à tous. L'ouvrage dont je vais vous parler ce soir, c'est une nouvelle publiée en 1927. Son auteur est autrichien et il a aussi écrit Pitié dangereuse, Lettre d'une inconnue, Clarissa ou encore Le joueur d'échecs. Si nous étions en studio, j'aurais demandé aux autres chroniqueuses si elles avaient deviné de qui je parle, mais puisque, comme l'a dit Sandrine, je fais cette chronique dans ma chambre et pas en studio, je vous donne la réponse. Ce soir, je vais vous présenter un livre de Stefan Zweig. Le livre que j'ai choisi est l'un des plus célèbres de cet auteur, puisqu'il s'agit de la confusion des sentiments. Alors non, je ne vais pas vous parler de cet ouvrage avec le prisme de l'amour, en tout cas pas seulement, mais si ce sujet vous intéresse, vous pouvez toujours écouter ou réécouter l'émission que nous avions faite sur ce thème. Aujourd'hui, je vais vous parler des thématiques abordées dans ce livre, sans me restreindre aux relations amoureuses. Mais avant de vous les présenter, je vous lis la quatrième de couverture. Au soir de sa vie, un vieux professeur se souvient de l'aventure qui, plus que les honneurs et la réussite de sa carrière, a marqué son existence. À 19 ans, il a été fasciné par la personnalité d'un de ses maîtres. L'admiration et la recherche inconsciente d'un père font alors naître en lui un sentiment mêlé d'idolâtrie, de soumission et d'un amour presque morbide. Freud a salué la finesse et la vérité avec lesquelles l'auteur d'Amok et du joueur d'échecs restituait le trouble d'une passion et le malaise qu'elle engendre chez celui qui en est l'objet. Paru en 1927, ce récit bref et profond connut un succès fulgurant en raison de la nouveauté audacieuse du sujet. Il demeure assurément l'un des chefs-d'œuvre du grand écrivain autrichien. Alors, cette nouvelle d'environ 124 pages se lit avec une vitesse presque dérangeante. Le style d'écriture de Stefan Zweig fait partie de ceux qui sont fluides et agréables à lire, sans pour autant tomber dans la simplicité. Certaines phrases vous donnent l'impression qu'un ami vient de déposer un plaid sur vos épaules. Cet ouvrage, c'est l'histoire d'un professeur d'une soixantaine d'années qui veut nous raconter quelle a été sa véritable vie, quel est l'événement qui a fait de lui qui il est, au moment où il nous parle. Il dit « Et ainsi, moi qui ai employé toute une vie à décrire les hommes d'après leurs œuvres et à objectiver la structure intellectuelle de leur univers, je constatais, précisément sur mon propre exemple, combien reste impénétrable dans chaque destinée le noyau véritable de l'être, la cellule mouvante d'où jaillit toute croissance. Nous vivons des myriades de secondes et pourtant, il n'y en a jamais qu'une, une seule, qui met en ébullition tout notre monde intérieur. La seconde où, Stendhal l'a décrite, la fleur interne, déjà abreuvée de tous les sucres, réalise comme un éclair sa cristallisation. Seconde magique, semblable à celle de la procréation et, comme elle, cachée bien au chaud, au plus profond du corps. Invisible, intangible, imperceptible. Mystère qui n'est vécu qu'une seule fois. Aucun algèbre de l'esprit ne peut la calculer. Aucune alchimie du pressentiment ne peut la deviner. Et l'instinct que l'on a de soi la saisit rarement. Voilà, alors, toute l'histoire va découler de ce qui est résumé dans ce passage. Le professeur fait un retour dans le temps pour nous narrer sa jeunesse et confier une partie de sa vie qu'aucun de ses biographes n'avait encore pu poser sur le papier. Donc la confusion des sentiments, c'est l'histoire de Roland, un jeune Allemand qui a 19 ans au début de la nouvelle et qui part étudier à Berlin. Le problème de ce jeune homme, c'est qu'il se laisse prendre par la frénésie de la vie étudiante au sein de la capitale et qu'il en délaisse ses études. Ça pourrait ne pas être un réel problème, puisqu'après tout, chacun vit comme il l'entend. Sauf que le père de Roland vient lui rendre visite à Berlin, et il se rend compte que son fils s'assoit plus souvent sur les chaises des cafés que sur le banc des amphithéâtres. Après cette visite paternelle pas franchement attendue, Roland se voit obligé de déménager et de changer d'université. Et c'est là que les choses se compliquent. Il y rencontre un professeur de littérature anglaise qui l'interpelle et qu'il va admirer de plus en plus au fil de l'histoire. Et avant de continuer, je vous propose un extrait de leur première rencontre. L'intervention du professeur paraissait faire suite à une discussion ou à un exposé. Du moins, c'est ce que semblait indiquer la disposition informelle et spontanée du professeur et de ses étudiants. Il n'était pas assis doctoralement sur un siège à distance, mais sur une des tables, la jambe légèrement pendante, presque d'une façon relâchée. Et autour de lui étaient rassemblés les jeunes gens dans des attitudes sans apprêt qui, d'abord nonchalantes, s'étaient sans doute fixées dans des poses de statue sous l'effet de leur intérêt passionné. On voyait qu'au début, ils devaient être en train de parler ensemble, lorsque soudain, le professeur s'était juché sur la table et là, dans cette position surélevée, les avait attirés à lui par sa parole, comme avec un lasso, pour les immobiliser, fascinés sur place. Et après quelques minutes, je sentis moi-même, oubliant déjà le caractère d'intrusion de ma présence, la force fascinante de son discours agir magnétiquement. Malgré moi, je m'approchais davantage, afin de voir, par-dessus les paroles, les gestes remarquablement arrondis et élargis des mains, qui parfois, lorsqu'un mot sonnait puissant, s'écartaient comme des ailes, s'élevaient en frémissant, et puis s'abaissaient peu à peu musicalement, avec le geste modérateur du chef d'orchestre. Et toujours la harangue devenait plus ardente, tandis que, comme sur la croupe d'un cheval au galop, cet homme ailé s'élevait rythmiquement au-dessus de la table rigide et, haletant, poursuivait l'effort impétueux de ses pensées traversées par de fulgurantes images. Jamais encore je n'avais entendu un être humain parler avec tant d'enthousiasme et d'une façon si véritablement captivante. Pour la première fois, j'assistais à ce que les Romains appelaient raptus, c'est-à-dire l'envol d'un esprit au-dessus de lui-même. Bon alors, la nouvelle me semble un petit peu compliquée à résumer dans cette chronique. Elle est à la fois très courte et très riche en émotions. Comme l'indique le titre, le narrateur, est pris dans une myriade de sentiments qui, certains sont contradictoires, d'autres assez flous, mais dans l'ensemble tout est assez confus. Et son professeur, dont on a des apparitions régulières, subit les mêmes égarements, les mêmes interrogations, mais pas les mêmes inquiétudes. Parce que ce qu'on comprend assez vite lorsque Roland, le narrateur, emménage dans une petite chambre au-dessus du logement de son professeur, c'est que le mariage entre le professeur et sa femme n'est pas aussi rose que ce qu'il laisse voir à l'extérieur. D'un côté, Roland a presque totalement délaissé la vie qu'il qualifiait de débauche au début de la nouvelle, pour se consacrer pleinement à ses études, et de l'autre, il noue une relation forte avec son professeur qui, lui, disparaît de temps à autre et mène une vie qu'il cache à Roland et à sa femme. Bon après, sa femme, elle, n'est pas dupe, comprend assez bien la situation et d'ailleurs elle essaye de préserver Roland. Je vous avoue que l'écriture de cette chronique n'a pas été facile parce qu'il fallait à la fois que j'évite de tout vous dévoiler et en même temps réussir à expliquer les enjeux de l'histoire. Mais donc il s'avère assez rapidement que l'admiration profonde que Roland voue à son professeur est accueillie par des sentiments tout autres du côté du professeur. C'est là qu'on voit la subtilité de la plume de Stefan Zweig, qui réussit à nous faire comprendre ce qui se cache sous cette relation, sans pour autant l'expliciter tout de suite. J'ai pas envie de vous donner le fin mot de l'histoire, ni même de trop m'attarder sur la fin de la nouvelle, parce que finalement chaque passage mérite d'être lu et découvert dans son contexte pour vraiment se plonger dans la tension qui s'en dégage. Pour autant, on peut parler du fait que cette nouvelle aborde en arrière-plan toute une réflexion du narrateur sur ses études, à l'âge auquel les femmes l'attirent plus que les livres, et sur la dévotion qu'un élève porte à son apprentissage lorsqu'il admire le prof qui lui fait cours. Là, je vous fais un petit aparté, puisqu'on est entre nous, mais je pense que les étudiants ou anciens étudiants seront d'accord avec moi pour dire que la passion que met un prof dans ses cours impacte très très fortement la perception qu'on a de ce cours. Il peut même arriver que finalement on se mette à avoir envie d'étudier une matière qu'on n'appréciait pas particulièrement au départ, juste parce que le professeur nous a donné envie d'étudier. Mais bon, en dehors de ce contexte universitaire dans lequel baignent les personnages et de toute la dimension relationnelle entre les élèves et les professeurs, on a surtout la thématique de l'homosexualité. Parce que pour ceux qui l'auraient compris, Mais pour les autres, pas de panique, vous n'aurez pas une mauvaise note pour ça. Le professeur aime Roland d'un amour différent de l'amour qu'un enseignant porte généralement à ses élèves. C'est là tout le problème et toute la source de l'ambiguïté de leur lien. Le professeur subit la fameuse confusion de ses sentiments, emprisonné dans un mariage hétérosexuel mais amoureux d'un élève. Le narrateur, quant à lui, se retrouve pris entre l'amour charnel qu'il éprouve pour la femme de son professeur et l'attachement pour ce professeur qui, honnêtement, après une seule lecture, était assez difficile à décrire. Et le pire, c'est que la femme du professeur se retrouve elle aussi un peu perdue au milieu de tout ça. Finalement, on pourrait s'arrêter ici, sur cette image de la confusion des sentiments. L'image d'un homme qui retrace sa vie. Un homme qui nous explique qu'il suffit d'un événement, d'une rencontre, pour bouleverser une existence et nous redéfinir. Un homme qui découvre des sentiments nouveaux pour lui, mais aussi nouveaux pour les thèmes utilisés dans les récits à l'époque. Un homme qui a appris à apprendre. Un homme qui a aimé et qui a été aimé. Et vous, à la fin de cette chronique, à quelle rencontre est-ce que vous pensez ?
Confession de The Jimi Hendrix Experience. Ça ne pouvait pas mieux tomber un titre pareil pour conclure une chronique portant sur une œuvre intitulée La confusion des sentiments. Chronique qui sera d'ailleurs la dernière de cette émission spéciale carte blanche.
La dernière ? Non. Une petite chronique écrite par une irréductible gauloise résiste encore et toujours aux envahisseurs hertziens. Je vous propose à mon tour ma carte blanche, qui se trouve en réalité être une carte verte. Pas vert courgette, ni même vert haricot, et encore moins un vert citron, mais d'un vert concombre. Ce soir, je m'en vais vous faire une chronique BD sur le concombre masqué. Jingle !
La chronique BD.
La quoi ?
Moi, j'ai rien compris à cette phrase.
Allez !
La chronique, ta mère.
La quoi?
La chronique BD.
Ok.
Le Concombre Masqué est, comme le précédent jingle l'indique, une œuvre BD. Mais ce que le précédent jingle n'indique pas, c'est que cette BD nous provient de Mandrika, qui en a conçu les scénarios et réalisé les dessins. Nikita Mandrika, né le 20 octobre 1940 à Bizerte, petit-fils d'officier de marine russe royaliste, neveu d'Anastasia Manstein-Chirinsky, qui sera la dernière survivante de la communauté de colons russes installée en Tunisie et qui, du fait de sa contribution à la préservation de la mémoire de la flotte de l'armée blanche réfugiée sur le sol tunisien, mérite pour elle son article Wikipédia. Contrairement au père de Nikita Mandrika, dont l'existence n'est même pas mentionnée sur le dit Wikipédia. La rédaction, c'est-à-dire moi-même, conclut donc qu'il n'a donc soit rien fait de notable dans sa vie tout court, soit qu'il n'a contribué qu'à hauteur de ses compétences reproductrices sans rien réaliser de notable dans la vie de son fils. Mais laissons là nos théories sur la relative importance des pères dans la cellule familiale et revenons-en à Nikita Mandrika. Passons sur son enfance en Tunisie, ses études en France et arrivons à ses premières publications dans un petit journal, PIF. Un journal qui aura amusé les petits autrefois, notamment grâce au concours de curcubitacées camouflées. Le végétal cagoulé quittera d'ailleurs le journal du toutou pour rejoindre en 67 la revue Pilote, où l'aura précédé un certain Gottlieb en 65 et où suivra une certaine Bretécher en 69. Et comme Goscinny casse un peu l'ambiance, eh bien ce formidable trio offrira aux 70s la création du mirifique, cultissime et sensationnel Echo des Savanes. Au cas où ça vous aurait échappé, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais dont leurs parents se souviennent peut-être. Et pour ma part, de cette nostalgie qui n'est pas mienne, je suis un peu imprégnée. Mais pensez-vous donc, l'Écho des Savanes, c'est rien de moins que le magazine qui a permis au petit Mickey d'accéder à l'âge adulte en France. Mais trêve de palabres élogieuses sur ce magazine et ses auteurs dont je jalouse les béotiens et béotiennes qui ont le luxe ultime, ce plaisir inégalable d'aller les découvrir. Revenons-en au Concombre Masqué si vous voulez bien. Vous pouvez retrouver ses aventures sous la forme de 18 albums, parmi lesquels on pourra citer Les aventures potagères du Concombre Masqué, À la poursuite du Brutschlag mort doré, ou encore Le Concombre contre le grand Patatosaure. Dès l'intitulé, on repère un des marqueurs qui fait tout le sel de cette salade, un humour et un amour pour le néologisme bigarré. Le Concombre Masqué compte ainsi les aventures, qu'elles soient potagères ou non, d'un concombre, qui se trouve être masqué, ça on l'avait compris, vivant au Cactus Blockhouse, plus ou moins une forteresse à la croisée parfaite entre un château et une chaudière, interagissant le plus souvent avec ce que j'ai longtemps cru être un navet, mais qui se révèle en réalité être un chourave. Oui, voyez-vous, Chourave, quand j'étais enfant, ça me semblait être un prénom parfaitement convenable, ignare que j'étais en la matière de Brassica oleracea. Et comme les choses ne vont pas en s'arrangeant pour vous introduire à ce qu'est le concombre masqué si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est-à-dire rien à voir avec une version végane non moralisatrice et illustrée des fables de La Fontaine, je vous propose une citation de Cecil McKinley, qui en a, je pense, assez bien synthétisé l'esprit. Définir le concombre masqué peut relever de la gageure, tant la fausse simplicité de la chose cache en réalité des abîmes, des sommets, des passerelles qu'une vie ne suffirait à explorer. Qu'une vie ne suffirait pas à explorer. En surface, il n'y a qu'un légume masqué, évoluant dans un environnement aussi flou physiquement qu'il exprime très précisément les chemins de la perdition qu'emprunte l'humanité à l'encontre de toute intelligence. Prenez de la réflexion humaniste, mais intransigeante. Ajoutez-y un soupçon de zen et de psychanalyse, une flopée d'absurdes en réponse à l'absurdité de notre monde civilisé, et vous obtiendrez un début d'explication de la chose, le cerveau de Mandrika étant en constante oscillation entre ces valeurs qui constituent toute sa richesse humaine et artistique. Contraste vivant absolu, Mandrika est aussi doux que dur, aussi rationnel que fou, à la fois timide et provocateur, tendre et vachard, incarnant l'ascèse la plus rigoureuse tout autant que l'hédonisme le plus naturel. Le concombre est à la fois un transfert, un alter ego, un exutoire, un outil psychanalytique et une expression de soi de Mandrika. Dans un processus schizophrénique, Mandrika a investi son concombre d'une mission impossible à tenir, mais qu'il tient pourtant. Être à la fois le réceptacle, l'incarnation, le moyen d'exprimer ce qu'il y a de plus débile dans l'humanité, et le porte-parole de la révolte et de la contestation sans concession de la connerie humaine. À travers ses aventures patato-physiques, le concombre nous renvoie à la tronche l'ensemble des leurres et illusions dans lesquelles nous progressons. À l'échelle d'une vie, tout comme à l'échelle de l'humanité, sans broncher. On mettra cependant un peu de distance avec l'emploi des termes fous et schizophréniques utilisés ici en lieu et place d'absurdes et paradoxales.
Je ne crois pas que l'on irait qualifier une écriture de jambes en plâtre. Alors pourquoi traiter la folie comme une blague dans une société où le Conseil d'État valide le fichier OpsiWeb, qui sous couvert de lutte contre le terrorisme, se retrouve en réalité à ficher les patients hospitalisés sans consentement? Pourquoi être aussi laxiste sur son vocabulaire dans une société qui stigmatise les schizophrènes au point qu'en 2011, le professeur Sénon du CHU de Poitiers, interrogé par France Info, déclarait « Les passages à l'acte violent des malades mentaux sont l'exception, et on sait très bien qu'ils en sont en revanche beaucoup plus victimes. Ils sont 7 à 17 fois plus fréquemment victimes de violences que la population générale. » J'arrête ici ma parenthèse, mais si vous voulez la prolonger, libre à vous. Je vous laisse avec un conseil de lecture, inadapté. Une folle histoire de l'antipsychiatrie par Frixe. Et le lien sera bien entendu disponible en description du podcast. Et pour en revenir à nos cucumis savitus verdoyants, je vous propose de courir le risque d'une lecture. Exercice toujours périlleux quand on ne dispose que du son et point des images, alors qu'il s'agit de retranscrire ici de la BD. Voici donc l'aventure qui inaugure le quatrième album, La vie quotidienne du concombre masqué.
La vie quotidienne,
intense et passionnée,
du concombre masqué.
Histoire pleine de petits Mickey, entièrement dessinés à la main.
Encore ces imbéciles de la base de Dijon qui passent le mur du son. Il est 10h.
Archimède, you!
Quoi, qu'est-ce?
C'est le café!
Ah, le café! Il y a trop de sucre!
Pour ce qui est des réclamations, faut t'adresser au plombier. Non, mais des fois. Bon, c'est pas tout ça. Une nouvelle journée d'aventure et d'action commence. Go, man, go.
Stranger in the night. Mais qu'est-ce que tu fais?
Tu le vois bien, je sème des œufs durs.
Et pourquoi faire?
Pour faire pousser des poulets rôtis.
Du poulet rôti? Dans mon champ de cassoulet? Stop! Stop, arrête! Fais pas ça! Hier, j'ai planté ici des haricots blancs bouillis à l'eau. Et si, toi, tu y plantes des œufs durs, il va pousser du cassoulet au poulet rôti. Et c'est dégueulasse!
Ah bon? Et qu'est-ce qui me prouve que c'est un champ de cassoulet?
Simple, regarde, j'ai mis une pancarte pour l'indiquer.
Dis donc, ça ne prouve rien, c'est pas marqué cassoulet, alors...
C'est parce que je sais pas comment ça s'écrit, cassoulet.
Une devinette en passant! Connais-tu la différence qu'il y a entre une mine et un haricot blanc?
Non!
Je le supposais!
Et maintenant, mon champ de cassoulet est tout bodybulgué.
C'est Verdun.
Tant pis. D'ailleurs, j'aime pas le cassoulet.
Moi non plus. Je n'aime que le poulet banane. D'ailleurs, j'en ai importé un comme en cas. Hier, c'est l'ouverture de la chasse au poulet banane.
Ah bon?
Faut en profiter. C'est la fermeture demain.
Oh bah dis donc, c'est court.
C'est normal. C'est une espèce qui disparaît.
Tant mieux.
Pourquoi dis-tu ça?
Je n'aime pas le poulet banane.
Mais tu n'aimes rien.
Si, j'aime. Mais dire. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Il n'y a plus qu'à se suicider.
Rhône Poulenc, nationalise! J'ai trouvé! On va faire burner les fleureuses!
C'est pas ça qui a me calé les bourgeoufles, hein.
Mais si! Viens, je vais te montrer!
J'arrive, Georges!
Imprègne bien les fleureuses de semences à burne. Stop! Elles sont à point.
Coca, dernier tango à Paris, Roger, Pierre et Jean-Marc Thibault, je vous reçois 5 sur 5.
Roger.
Georges.
Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse?
Mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau de mauvais poil?
Quelle angoisse.
C'est un rabat-joie, ne l'écoute pas. Il te filerait un nervous breakdown. Regarde plutôt les fleureuses, toutes gonflées de burnes.
Que c'est beau.
Tiens-toi prêt, elles ne vont pas tarder à crever du fond. Ça y est!
Ça burne mauve!
C'est normal, je les ai ensemencés à la fraise.
Chic! Y'a plus qu'à aller au cinoche, et ce sera la joie. Ah, y'a quand même de bons noms dans cette chaîne de vie. Et voilà, cette fois, c'est vraiment fini. On espère que cette émission vous aura plu.
Je profite de ces quelques dernières minutes à l'antenne pour te rappeler, cher membre de notre auditorat estimé, que tu peux participer à l'appel à témoignage d'Ingrid sur ta relation avec la lecture. Que tu sois en couple, célibataire ou en situation compliquée, tout type de témoignage est le bienvenu. Et pour te confier au micro d'Ingrid, n'hésite pas à te manifester par voie de courrier électronique à l'adresse suivante ingrid.radiosyllabe@gmail.com. Ingrid, I-N-G-R-I-D, et pour Radiosyllabe, bah radio, comme d'habitude, C-L-A-B, tout attaché. Et si j'appelle pas assez bien, bah tu peux retrouver toutes ces informations en description du podcast, où tu trouveras également la mention des références littéraires et musicales qui auront agrémenté cette émission. Merci encore à Sandrine, Ingrid et Clara pour vos chroniques. J'en profite également pour saluer nos autres camarades de radio, Marion et Sophie. Et merci à mon chat de ne pas avoir été trop casse-burne pendant cet enregistrement à domicile. Et bien sûr, merci à toi qui écoutes. Je te souhaite une belle soirée, en sus de belles rencontres littéraires, sur les ondes comme dans la vraie vie. À bientôt !